RFI 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Le journal avec Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Julien, bonjour à tous. À la une ce matin, le Gabon qui vote, les Gabonais appelés aux urnes. Premier tour de l'élection présidentielle, nous serons en direct de Libreville dans un instant pour l'ouverture des bureaux de vote. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo, où des combats ont eu lieu dans la nuit à Goma, la grande ville de l'Est congolais contrôlée par les rebelles M23. Le calme est revenu ce matin. L'Est congolais, où l'UNICEF alerte sur des niveaux encore jamais atteints de violences sexuelles contre les enfants depuis le début de l'année. Nous serons aussi au Cameroun avec le député d'opposition Cabral Libi. Il a lancé hier sa collecte de fonds en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre. Et au Sénégal, pour notre dossier ce matin consacré à la transhumance et des éleveurs confrontés aux conséquences du changement climatique et aux frontières parfois fermées pour les troupeaux. Un peu moins d'un million d'électeurs, un peu plus de 3000 bureaux de vote et 8 candidats pour une journée d'élection ce samedi au Gabon. Premier tour de l'élection présidentielle, un peu plus d'un an et demi après le coup d'État opéré par le général Oligui Nguema contre Ali Bongo. Nous sommes en ligne ce matin de Libreville avec notre envoyé spécial François Mazet. François, au lycée Léomba, où vous vous trouvez ce matin, les opérations de vote ont-elles débuté ?
Font le nécessaire. Alors il y a un léger retard au démarrage, non pas parce que le matériel électoral n'était pas là, mais parce que certaines consignes sont arrivées un petit peu en retard. Donc les assesseurs des bureaux de vote doivent signer tous les bulletins, 3 signatures par bulletin pour prouver tout simplement que ces bulletins sont bien ceux du bureau. Donc ça prend un petit peu de temps. Les premiers électeurs donc prennent leur mal en patience juste à l'entrée, mais on devrait pouvoir commencer vraiment d'ici quelques instants. Le lycée Léomba, c'est un centre de vote assez important, hein. Il y a 4 bureaux, ça représente quand même 1800 inscrits. Les listes sont bien visibles, le matériel elle est là. Les urnes, les isoloirs, les bulletins des 8 candidats en lice. Les votants pourront venir un petit peu toute la journée. Ils profiteront des transports gratuits puisque les autorités font le nécessaire également en ayant déclaré la journée fériée, et bien pour s'assurer qu'un maximum de gens puissent venir voter pour cette élection.
François, les Gabonais ont le choix donc entre 8 candidats et la participation à ce scrutin, ce sera l'un des enjeux principaux de la journée.
Oui, effectivement, enjeu important, la participation, puisque comme on sort de ces 20 mois de transition, il y a forcément un aspect plébiscitaire, hein, assez évident à ce scrutin. Stop ou encore pour Brice Clotaire ou Oligui Nguema, c'est un petit peu la question pour résumer. Les 7 autres candidats ont tenté d'exister pendant la campagne, notamment l'ex-premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, qui a été très dur dans ses déclarations avec la transition. Il y a aussi des personnalités politiques qui ne participent pas au vote, qui ont appelé soit à voter blanc, soit à s'abstenir. Donc on regardera si beaucoup de Gabonais se sont déplacés aux urnes ce samedi.
François Mazet en ligne ce matin de Libreville au Gabon. Notez que la fermeture de ces bureaux de vote est prévue pour 18h heure locale et que pour le moment, les autorités gabonaises n'ont pas encore précisé quand elles comptaient donner les résultats de ce scrutin. Des tirs et des détonations ont rythmé la nuit de la ville de Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. Sous le contrôle Goma, depuis le mois de janvier, des rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda. Des combats cette nuit, mais ce matin, Vincent Dublanche, le calme est revenu.
Oui, ça fait quelques heures que les tirs se sont tus dans Goma. Le gouverneur du Nord Kivu, installé par l'AFC M23 qui contrôle la ville depuis 2 mois, affirme, je cite, avoir anéanti les assaillants. Il cite les FARDC, l'armée donc, mais aussi leur supplétif Wazalendo, ces groupes armés affiliés, et puis les FDLR, ce groupe rebelle à l'origine fondé par d'anciens génocidaires Hutus rwandais à la fin des années 90. D'après des sources concordantes, l'attaque de la soirée, qui s'est poursuivie donc dans la nuit, était bien coordonnée. Les assaillants étaient lourdement armés et nombreux. Ils ont réussi à atteindre la route principale Katindo-Ndosho avant d'être repoussés. Ils auraient, d'après un habitant de Goma, pillé plusieurs maisons sur l'avenue Balindu. Pour l'heure, aucun bilan n'est disponible. Quelques corps en tenue militaire sont visibles dans les rues. Au moins un décès et un blessé ont été enregistrés, nous dit une source sanitaire. La circulation a repris ce matin dans les quartiers touchés de Goma. Des écoliers se rendent à l'école. Circulation timide toutefois, puisque Xavier, c'est une journée dédiée au Salongo, les travaux communautaires par les autorités de la FCM 23 soutenues par le Rwanda. Pour l'heure, aucune réaction ni revendication de la part ni de l'armée congolaise ni des Wazalendo.
Merci Vincent Dublanche. Et j'ajoute que ces derniers jours, d'autres combats ont été signalés à d'autres endroits du Nord Kivu dans le territoire du Massissi, mais aussi du Sud Kivu dans les territoires de Kalé et de Kabéré. Ce qui a fait dire à la MCM 23 que l'armée congolaise et ses alliés violaient la trêve. Là non plus, le gouvernement de Kinshasa n'a pas encore réagi pour le moment. Tout cela alors que des discussions ces derniers jours à Doha sous l'égide du Qatar, des discussions sont en cours mais semblent patiner d'après nos informations. L'Est congolais également, où l'UNICEF s'alarme des violences sexuelles contre les enfants. Elles n'ont jamais été aussi nombreuses, affirme l'agence de l'ONU, qui parle non pas d'incidents isolés, mais de vraies crises systémiques. À Kinshasa, Pauline Azidi.
En janvier et en février 2025, l'UNICEF dit avoir enregistré plus de 10 000 cas de viol en RDC et 35 à 45% de ces cas concernent des enfants, parfois des tout petits, précise James Elder, le porte-parole de l'organisation. Une situation telle que le pays, et particulièrement sa partie est, n'avait jamais connue. Et le responsable onusien de mettre en garde, il s'agit peut-être de la partie émergée de la iceberg. Nous ne parlons pas d'incidents isolés, insiste-t-il, mais d'une crise systémique. Pour l'UNICEF, il s'agit d'une arme de guerre et de tactiques délibérées de terreur. Cela détruit les familles et les communautés. Depuis la résurgence du conflit entre la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda et l'armée congolaise et ses alliés, les humanitaires alertent régulièrement sur l'augmentation du niveau de violence sexuelle et demandent la fin de l'impunité pour les auteurs de ces violences. En mars, les Nations Unies déclaraient qu'en RDC, une femme était violée toutes les 4 minutes. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et des violences, toutes les violences dont les auteurs doivent répondre de leurs actes. C'est ce que dit ce matin le président de la Commission nationale des droits de l'homme de RDC sur RFI. Vous l'entendrez dans le prochain journal Afrique dans une heure et il parle des violences commises par les rebelles M23 mais aussi par les militaires congolais. RFI, 7h37 à Yaoundé au Cameroun où les choses se mettent en place en vue de la présidentielle prévue au mois d'octobre. Dans un peu plus de 6 mois donc, ce qui laisse le temps de récolter de l'argent pour la campagne. Candidat déclaré, le député d'opposition Cabral Libi l'a fait hier alors que le gouvernement conteste sa présidence de parti. Et cela s'est vu hier, Cabral Libi donc qui a lancé sa campagne de collecte de fonds à Yaoundé, Richard Onanena.
Mouvement de panique dans les couloirs du siège du PCRN. Des éléments des forces de l'ordre ont fait irruption peu de temps avant la prise de parole du député Cabral Libi, président du parti. Les rumeurs d'interdiction de la réunion seront finalement dissipées après un huis clos dans un bureau. Cabral Libi annonce finalement l'ouverture de la collecte de fonds pour sa campagne avant de dénoncer ce qu'il qualifie d'acharnement.
Qu'est-ce qui peut justifier cette persécution? Nous ne savons pas. Je suis le président du PCRN et à ce titre j'irai à l'élection présidentielle.
Une candidature à la présidentielle qui n'est cependant pas garantie car depuis plus d'un an, plusieurs initiatives du PCRN butent devant des blocages du ministère de l'administration territoriale qui a constaté un bicéphalisme à la tête du parti après que Robert Kona, l'un des fondateurs, a revendiqué la tête du parti. Pour Cabral Libi, la justice a déjà tranché.
Donc si dans un pays les décisions de justice ne suffisent plus pour trancher de contentieux, nous ne savons plus ce qu'il faut pour les trancher. Tant que je serai à l'abri de l'état de droit, je serai toujours confiant aux institutions de la République.
Cabral Libi est le troisième candidat déclaré à lancer le processus de collecte de fonds de campagne. Richard Onanena, Yaoundé. RFI.
Et les deux autres candidats, ce sont Jean-Blaise Gouette et Maurice Comto. L'orage est passé, mais le calme n'est peut-être que temporaire. Donald Trump, cette semaine, le président américain, est revenu finalement sur sa décision d'augmenter une nouvelle fois les droits de douane pour les produits arrivant aux États-Unis. Il a fixé pour les 3 prochains mois au moins un taux de taxation à 10% pour presque tous les pays. Concernés donc les pays africains et certains comme Madagascar ou l'Afrique du Sud échappent à des taux bien plus élevés. Et globalement, les économies africaines ne devraient pas être trop affectées, estime l'agence de notation américaine Fitch. Précision et explication avec Claire Fage.
Le gel de l'aide américaine et les tensions commerciales ne risquent pas de dégrader la note des économies africaines, rassure Fitch. L'agence de notation américaine estime que l'impact des taxes Trump en Afrique sera limité étant donné la faiblesse relative du marché américain pour le continent, 7% des exportations africaines. La Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, la Namibie demeurent aux yeux de Fitch relativement épargnées par les derniers événements. L'agence de notation américaine maintient ses perspectives de crédit positives. Elle entrevoit même une possible amélioration de la note des Seychelles et du Nigeria grâce aux réformes entreprises dans ces pays. Le gel de l'aide américaine porte certes un coup à l'Afrique. Elle était de loin le premier continent récipiendaire de l'USAID. Comme le FMI, Fitch reconnaît les risques pour les budgets des États les plus pauvres ou dépendants de cette aide, notamment l'Éthiopie, le Mozambique, l'Ouganda ou le Lesotho. Mais l'agence de notation américaine parie sur la place croissante que prendront les banques africaines de développement dans le paysage financier du continent. Elle anticipe aussi une hausse des investissements américains dans les minerais africains.
Et puis avant de retrouver Julien Coquel-Rouhem, notre dossier ce matin est consacré à l'élevage pastoral en Afrique de l'Ouest, où il représente la quasi-totalité de la production de viande rouge. Élevage donc basé sur la transhumance, les déplacements de bétail et des éleveurs régulièrement confrontés aux problématiques de territoire, de conflits avec les agriculteurs. Ils font face aussi aux conséquences du changement climatique. Elle nous explique Penaï Traoré en prenant l'exemple du Sénégal.
Retard du début de la saison des pluies, doublé d'une forte variabilité de leur intensité et de leur fréquence, avec un risque d'inondation ou de sécheresse. Les effets du dérèglement climatique touchent aussi l'élevage transhumant, notamment au Sénégal, entraînant parfois une rareté des pâturages et une réduction de l'espace pastoral dans les régions du nord du pays, traditionnellement des terres d'élevage. Les éleveurs sont de plus en plus contraints de chercher d'autres territoires de transhumance en redirigeant les parcours vers le sud. Des déplacements devenus des sources de conflits avec les agriculteurs. Il faut donc une gestion concertée et pacifiée des ressources naturelles, car de ces ressources, les pâturages et l'eau dépendent la vie et la survie des communautés pastorales, affirme Stefano Mazzone, vétérinaire et chargé de programme élevage et santé animale à l'AVSF, agronome et vétérinaire sans frontières. Le nouveau code pastoral sénégalais adopté en 2023 et qui attend d'être appliqué devrait aussi faciliter la pratique de cette activité grâce à la mise en place de zones aménagées et des règles d'exploitation de l'espace agro-silvopastoral.
La transhumance qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO, mais qui est mise en danger ou en tout cas rendue compliquée par les frontières et les États qui parfois peuvent décider d'empêcher le passage des troupeaux. Écoutez à ce sujet Khalidou Ba de l'EGAB, qui est une organisation agro-pastorale sénégalaise.
Il y a des éleveurs sénégalais qui s'y ici pour aller au Mali, en Gambie et même en Guinée, qui commencent à interdire la transhumance transfrontalière. Si aujourd'hui il y a un pays qui dit que voilà, c'est fini la transhumance transfrontalière, on a des problèmes. Les pays côtiers aussi, comme le Togo, il y a des restrictions qui commencent à se dessiner. À une partie de l'année, on dit qu'on va fermer les frontières. À cette date, on va ouvrir les frontières. C'est des règles qui ne vont pas favoriser la transhumance transfrontalière. Mais aussi, le Sénégal est dans la zone CEDEAO. Les autres pays commencent à dire que nous, on est alliance des États du Sahel. Est-ce que tout ça ne va pas demain poser des problèmes avec la transhumance transfrontalière? Parce que la CEDEAO a ses règles. L'AES aussi peut avoir des règles différentes. C'est des problèmes qui commencent à nous poser des questions.
Et le pastoralisme, ce sera le sujet de l'émission Un jour au village, tout à l'heure avec Penaï Traoré. Rendez-vous à 13h10, temps universel. Pour l'instant, il est 6h44 TU et vous êtes avec Julien Coquel-Rouhem.